Un mourant, qui comptait plus de 100 ans de vie, se plaignait à la mort que précipitamment, elle le contraignait de partir tout à l'heure, sans qu'il eût fait son testament, sans l'avertir au moins. La mort et le mourant, Jean de La Fontaine. Elle dort, mon amour. Puisse son sommeil être profond, aussi bien qu'éternel. Que les vers du tombeau rampent doucement autour d'elle. La dormeuse, Edgar Allan Poe. L'homme était-il donc à la fois si puissant, si vertueux et magnifique, et d'autre part, si vicieux et si bas? Frank Einstein, ou le Prométhée moderne, Mary Shelley. Chapitre 1. C'était un de ces dimanches soirs d'automne, de ceux qui décrochaient les dernières feuilles des arbres, où la plupart des gens restaient cloîtrés chez eux, dans la douceur enveloppante de leur foyer, à regarder la télé, coucher leurs enfants, ou lire un bon livre près de la cheminée. Audra Speak et Nicolas Bélanger, eux, planquaient, tout faisait un, sur un chemin de terre enfoncé dans la campagne gorgée des récentes pluies glacées de novembre. De cet emplacement, les deux flics de la brigade criminelle avaient une vue dégagée sur la seule route permettant d'accéder à cette partie du bois de Vosgien, s'étalant de part et d'autre de la frontière entre les Yvelines et l'Essonne. Un peu plus loin, une voie perpendiculaire à cette communale se perdait entre les arbres pour mener à un recoin invisible où il était possible de garer un véhicule à l'abri des regards. C'était cet endroit précis qui intéressait les policiers. Nicolas roula en boule l'emballage aluminium de son sandwich, le fourra dans le vide-poche déjà encombré et considéra sa compagne qui s'arc-boutait comme elle pouvait, les bras tendus au-dessus d'elle jusqu'à toucher le plafond. À 5 mois de grossesse, elle supportait de moins en moins l'immobilité qu'imposaient ses planques. « Ça fait un moment que tu ne devrais plus quitter les bureaux, Audra. Le stress, tout ça, ce n'est pas bon pour le bébé. » Audra se relâcha, repositionna son pull en laine sur son ventre arrondi et rabattit contre elle les pans de son blouson à col mouton avant de se recroqueviller. Avec le moteur à l'arrêt, le froid régnait dans l'habitacle. Nicolas remettait le contact de temps en temps, mais ça ne suffisait pas à la réchauffer durablement.
On papote, on écoute du Nick Cave et on s'enfile des parts de flanc coco de chez Paul. Je ne vois pas où est le stress.
Nicolas adorait ses fossettes quand elle lui souriait. Dans ces moments-là, une lumière de cinéma semblait glisser sur son visage. Elle savait y faire pour l'amadouer, mais il en toucherait quand même un mot à Charcot. Il était quasiment 22 heures et Audra aurait dû être tranquillement installée sur leur canapé, pas ici, au milieu de nulle part, à espérer qu'un monstre de la pire espèce vienne assouvir ses sinistres fantasmes. Le corps d'une femme avait été découvert par hasard 5 jours plus tôt, à quelques dizaines de mètres du renfoncement qu'il surveillait, grâce au chien d'un chasseur. L'animal avait dévié de sa trajectoire et entrepris de gratter le sol en poussant des gémissements. Un bras nu avait alors été déterré. Dans la panique, son maître avait composé le 17, étincelle qui avait mis en branle la machine judiciaire. Vu la nature du crime, mutilation au niveau de l'abdomen, actes de torture, brûlures électriques, le 36 avait immédiatement été saisi, même si la scène se situait en dehors de sa juridiction. Avec la multiplication des affaires sordides ces derniers mois, on exigeait la crème de la police sur cette affaire. Les diverses analyses pratiquées, sur place et en laboratoire, avaient révélé que la victime, tuée entre 4 et 7 jours auparavant selon le légiste, avait été déterrée puis enterrée plusieurs fois. Sous l'éclairage de la lampe Polylight de l'identité judiciaire, des traces de liquide séminal étaient apparues sur le corps, sur l'avant comme sur l'arrière, mais aussi aux abords, ce qui signifiait que l'individu revenait sur les lieux, exhumait le cadavre et se masturbait au-dessus de lui. Un prédateur qui peinait à abandonner sa proie sans vie. Les recherches ADN n'avaient rien donné. On ignorait qui était cette femme, dont on estimait l'âge à 50 ans. Quand on l'avait trouvée, le spectacle n'avait pas été joli à voir. Un télégramme en 11 points qui décrivait le cadavre et détaillait les circonstances de la découverte avait été envoyé par l'état-major du 36 à toutes les forces de l'ordre de France. Un crime en pleine nature impliquait une disparition inquiétante à un autre endroit. Grâce au télégramme, on pouvait faire des recoupements entre des affaires. Mais il n'y avait eu, jusqu'à présent, aucun retour. On n'en savait guère plus sur le bourreau, hormis que son profil coïncidait avec celui d'un tueur nécrophile. Un malade qui cumulait des perversions bien gratinées. Les flics avaient fouillé dans les fichiers à l'aide de critères précis, examiné les sorties récentes des hôpitaux psychiatriques et des prisons de la région, pour commencer. Des coups dans l'eau pour le moment. C'était le genre d'enquête capable de s'éterniser, sauf si, comme le pensait Franck Charcot, le criminel revenait pour satisfaire ses pulsions. Beaucoup de choses au conditionnel, donc. Mais depuis quelques nuits, les coéquipiers du groupe Charcot se relayaient pendant des heures interminables dans une voiture banalisée, en espérant que le loup mette le nez hors de sa tanière. Charcot lui-même se coltinait des planques. Le commandant de police restait proche de ses hommes. Nicolas fixa l'oreille noire du bois. « Je te préviens, je ferai tout pour qu'il ne soit pas flic. Pas envie qu'il vive ça. Il ou elle fera ce que bon lui semble. » Mes parents se sont toujours opposés à mes choix. Ils ont voulu diriger ma vie, regarde maintenant. » Audra soupira avec amertume. 2 mois plus tôt, elle avait annoncé sa grossesse à ses parents, seule. Nicolas n'avait jamais été le bienvenu chez eux, à Nice. Et la rencontre s'était mal passée. Son père, anti-flic invétéré, lui avait régurgité l'éternel laïus sur le danger de leur métier, affirmant que les policiers n'étaient pas faits pour avoir une progéniture, que ces trucs-là finissaient forcément mal. Quant à sa mère, elle s'était rangée du côté de son époux, comme toujours. Depuis, il ne s'était plus donné de nouvelles, et la jeune femme se demandait même si elle partagerait avec eux la naissance de son bébé, tant la rupture paraissait définitive. Elle était pourtant leur enfant unique. Audra ! Elle tourna la tête dans la direction que lui indiquait Nicolas. Sur leur gauche, à 100 mètres, des phares. Un véhicule venait d'arriver. Il roulait au ralenti. Me dis pas que Charcot avait raison. Ce serait trop beau. Nicolas n'y voyait pas grand-chose, mais il lui sembla qu'il s'agissait d'une camionnette. Il retint son souffle quand elle passa devant leur voiture, à 30 mètres seulement. Manque de chance, elle continua son chemin devant l'endroit sous surveillance. Le lieutenant frappa son volant d'un coup sec. Et merde! Audra l'observa avec un sourire en coin, puis augmenta le son de l'autoradio. Voix de baryton de Nick Cave, mêlée au timbre envoûtant de sa compagne de l'époque, PJ Harvey. De quoi foutre le bourdon. Mais c'était sa chanson préférée, Henry Lee. La terrible histoire de 2 amants séparés par la mort. Soudain, les phares réapparurent, dans l'autre sens, même rythme lent. Audra coupa la musique sur le champ. Nicolas se raidit. L'individu opérait visiblement un tour de reconnaissance. Un type méfiant et aux aguets. Le véhicule s'orienta vers le renfoncement et fut englouti par les frondaisons. L'excitation grimpa aussitôt et le lieutenant de police éprouva une forme de jouissance que seules ces situations procuraient. Celle du chasseur face à son gibier. D'un geste vif, il s'empara de l'appareil photo posé sur le tableau de bord. « C'est lui, préviens Charcot. Dès que je t'envoie l'imat, tu la lui balances. » Fais attention à toi, promis. Nicolas s'élança dans la nuit, la fermeture éclair de son blouson en cuir remontait jusqu'au cou. La demi-lune surgissait par intermittence entre les gros nuages noirs, nimbant les reliefs d'un contour argenté. Au bout du chemin, il traversa la route, foula le bitume sur 10 mètres et bifurqua à son tour. Il perçut alors un claquement de portière, distingua le faisceau blanc d'une lampe qui creusait les ténèbres et dévoilait les branches agitées par le vent. Le sol gras rendait les semelles lourdes, néanmoins il évitait que les feuilles ne craquent sous ses pas. Le lieutenant s'approcha doucement de la camionnette. Il s'agissait d'un banal utilitaire flanqué d'un logo sur la portière arrière, UCB, ELEC, installation dépannage, électricité générale. Des cartons collés à l'intérieur obstruaient les vitres. Le tueur avait peut-être kidnappé sa proie avec ce véhicule-là, spécialement aménagé.